Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Voici donc mon exposé du mois d'août. Exceptionnellement, je vais vous lire un article paru dans L'Homme Nouveau du 6 décembre dernier. Mais cet article concerne le seul pape d'Avignon qui ait été bienheureux, le bienheureux Urbain V. Comme il est très bien fait, je vais le lire pour vous exposer ce remarquable pape. Quand les indices que tous les papes d'Avignon ont été médiocres, on peut leur dire qu'il y en a au moins qui est bien heureux. Il s'agit de Guillaume de Grimoire. Il a été béatifié en 1870. Il est né dans le Gévaudan, au château familial de Grisac. À 12 ans, Guillaume part étudier à Montpellier, puis se rend à Toulouse pour apprendre durant 4 ans le droit civil. Ses maîtres, éblouis par son intelligence et ses capacités, lui laissent espérer une chaire de droit. Mais brusquement, sans rien dire à personne, il embrasse la vie monastique dans un couvent bénédictin de 12 moines, dont un de ses oncles est le prieur. Cela à Chirac, dans le pays de sa mère, en Lozère. Bientôt, Guillaume est envoyé à l'abbaye Saint-Victor à Marseille pour achever sa formation monastique. Il y prononce ses vœux et montre de belles qualités, humilité, obéissance, amour de la prière et de la mortification. Revenu à son premier monastère, il reçoit le sacerdoce et ne tarde pas à repartir sur les conseils de ses supérieurs pour enseigner comme professeur d'université à Toulouse, Montpellier, Paris, Avignon. Il a 25 ans. À la Toussaint de l'an 1342, il obtient à Montpellier le titre de docteur en droit canon. Professeur aimant son travail et apprécié de ses élèves, il connaît un grand succès. Beaucoup viennent le consulter, les riches le recherchent pour arbitrer leurs différends et les pauvres lui demandent conseil pour leurs petites affaires de famille. Après ses cours, il ne manque pas d'aller dans les églises faire aux fidèles de pieuses exhortations. Sa parole chaude et persuasive, affectueuse et condescendante, lui conquiert le cœur des pauvres. Ses qualités attirent sur lui l'attention de la hiérarchie ecclésiastique. Il est nommé vicaire général à Clermont en 1349, plus tard il le sera à Uzès. De plus, il gouverne comme prieur un monastère du diocèse d'Auxerre et en 1352, le pape Clément VI le met à la tête de l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre. La papauté s'était installée en Avignon depuis 1309 pour échapper aux révolutions qui se succédaient à Rome. En 1352, le pape confie à Guillaume de Grimoire une mission difficile auprès de l'archevêque de Milan, enclin à empiéter sur le pouvoir temporel du Saint-Siège en Italie. Innocent VI, successeur de Clément VI, lui confie à son tour plusieurs missions diplomatiques qui seront couronnées de succès. En 1361, le pape le nomme abbé de Saint-Victor de Marseille. Guillaume entreprend la rénovation de l'abbaye dont les bâtiments sont fort délabrés. En septembre 1362, le pape meurt. Au terme d'un conclave difficile, Guillaume de Grimoire est élu pour lui succéder. Fait exceptionnel, un simple moine, abbé, pas même évêque, est élu pape. Il a alors 52 ans. Le couronnement du nouveau pontife a lieu en Avignon le 6 novembre 1362. Guillaume choisit le nom d'Urbain parce que, explique-t-il, les quatre autres Urbains ont tous été de saints hommes. Sa seule ambition est en effet de devenir un saint. Dès ce jour, il engage son pontificat dans la voie de l'austérité. Tout est prêt selon l'usage, pour qu'il traverse la ville tout enrubanné sur un cheval harnaché d'or, entouré d'une multitude de princes et d'évêques à cheval. On croirait dire Alphonse Daudet. Mais il refuse cette cavalcade, garde son habit de bénédictin et ne quitte pas le château. Le contexte historique du pontificat d'Urbain V est pour la France et l'Angleterre celui de la guerre de Cent Ans. Pour l'Europe, c'est la menace de l'invasion musulmane. Pour l'Italie, ce sont les luttes perpétuelles entre les cités. Le XIVe siècle connaît aussi la terrible épidémie de peste noire de 1348, qui, en un an, fait un ravage considérable et désorganise toute la vie sociale. Dans ces circonstances, Urbain VI donne dès son avènement l'exemple d'une vie de prière et de simplicité. Profondément moine, il conserve un mode de vie monastique. Très généreux pour les autres, il ne se nourrit lui que de mets ordinaires et couche sur un lit très dur. Il jeûne 2 ou 3 fois par semaine et se confesse avec humilité chaque jour avant de dire sa messe. Il y avait des confesseurs à l'époque. Il multiplie les aumônes et s'emploie à subvenir aux besoins des plus pauvres. Son goût pour la beauté s'exprime dans le culte divin à travers les objets liturgiques et la magnificence des constructions. Par petites touches et non sans une pointe d'humour plus que par de grands décrets, le pape commence la réforme de l'Église par les cardinaux. Il abolit le droit d'asile qui faisait des maisons cardinalistes de véritables repères de brigands. Il réglemente l'usage du vin et rappelle aux princes de l'Église leurs devoirs. Aux évêques, il signifie leur devoir de résidence dans leur évêché, parce que une barque sans pilote ne peut éviter les écueils, elle périt misérablement. Il réprime sévèrement la simonie, par laquelle on achète ou on vend un bien spirituel, et interdit la pluralité des bénéfices. Le bénéfice ecclésiastique était un patrimoine attaché à une fonction ou à une dignité de l'Église. Jaloux de l'indépendance de la papauté vis-à-vis des puissances temporelles, il refuse tout cadeau de leur part. Pour ses nominations, il n'écoute ni les prières des rois, ni les supplications de ses amis ou de sa famille, mais choisit les personnes les plus aptes. Il réforme un certain nombre de monastères, ce qui suscite parfois des remous. Urbain V remet également de l'ordre dans les mœurs et la pratique religieuse des fidèles, rétablit la justice, bannit les usuriers et châtie les voleurs. Pendant son court séjour de 3 ans à Rome, plus de 20 000 personnes reçoivent pour la première fois les sacrements de l'Église. Le pape lutte contre plusieurs hérésies, dont certaines niaient la nécessité du baptême, le péché originel, l'éternité des peines de l'enfer et la grâce divine. Urbain V nomme des cardinaux, des évêques et des professeurs compétents pour défendre la foi catholique là où elle est attaquée. Homme de paix, Urbain V travaille à la réconciliation des églises d'Orient et d'Occident. Il écrit avec autorité et affection à l'empereur de Constantinople, Jean V Paléologue, et lui envoie des légats. Impressionné par le renom du pape et par ses arguments, l'empereur vient à Rome au début de 1369 accompagné de son épouse, l'impératrice Hélène Cantacuzène, et d'une foule d'évêques, de seigneurs et de moines. Le pape était revenu à Rome en 1367. L'empereur passa 6 mois à Rome, s'entretenant fréquemment des choses de Dieu avec le pape, qui le reçoit à toute heure et sans rendez-vous. Les cardinaux, eux aussi, ont de longs entretiens avec lui, s'assurant de sa sincérité et répondant à ses objections. Le 13 octobre 1369, l'empereur proclame solennellement son adhésion à la foi de l'Église catholique en présence de plusieurs cardinaux. Dans sa profession de foi, il confesse tous les articles du credo catholique, notamment que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, ainsi que la primauté de l'Église romaine et l'autorité du pape sur les évêques et les patriarches. L'empereur et l'impératrice retournent à Constantinople, fort satisfaits des attentions dont ils étaient l'objet. Beaucoup de Grecs, touchés de la bienveillance du pontife, se réunissent à l'église de Rome. Cette réconciliation est une des plus grandes joies d'Urbain V. Sur le moment, en Orient, plusieurs suivent l'exemple des Grecs. Les Nestoriens prétendaient que l'on doit distinguer en Jésus 2 personnes comme on distingue 2 natures divines et humaines. Leur patriarche vient de Mossoul à Rome et fait profession de foi catholique entre les mains du pape. Le zèle apostolique d'Urbain V se manifeste encore par les missions qu'il envoie dans le monde, en Bulgarie, Lituanie, Géorgie, Bosnie, Dalmatie, Serbie et jusqu'en Mongolie et en Chine, où le premier évêché est créé à Pékin en 1370. Préoccupé par les guerres et les actes de violence de son siècle, Urbain V s'étudie à jeter les bases d'une paix durable en Europe, Son objectif premier est de retourner s'installer à Rome. Grâce au travail politique, militaire et juridique accompli par le cardinal Albornoz, ce retour est devenu possible en 1367. Arrivé dans la ville au mois d'octobre, le pape s'efforce d'améliorer les mœurs du peuple romain désorienté. Il crée de grands jardins sur la colline du Vatican pour employer des ouvriers au chômage. Il fait restaurer de nombreux monuments et entreprend des fouilles pour retrouver les têtes des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul que l'on découvre sous l'autel de la basilique du Latran. Pour maintenir l'intégrité de l'État et de l'Église, assurer la liberté des souverains pontifes et celle de l'Italie qui en est inséparable, le pape conçoit le projet de grouper autour de lui tous les États d'Italie en une sorte de ligue dont il serait le chef. L'empereur Charles IV de Bohême et le roi de Hongrie sont les premiers à adhérer à ce plan. Les États d'Italie suivent sauf Florence. Tous les princes de la chrétienté, du roi de Danemark jusqu'au roi de Bulgarie, entretiennent d'abondantes correspondances avec Urbain V ou viennent chercher conseil autour de lui. D'un autre côté, si la guerre de Cent Ans connaît quelques répits après le traité franco-anglais de Brétigny en 1360, les mercenaires désœuvrés, répandus sur les routes, dévastent tout. Urbain V, alliant diplomatie et fermeté, excommunie ses bandes et les exhorte à partir en croisade, autant pour les éloigner des contrées européennes que pour tenter d'enrayer la poussée des musulmans qui menacent l'Empire d'Orient. Mais, quelques années après la paix de Brétigny, une nouvelle flambée de violence entre Français et Anglais convainc le pape de quitter Rome pour Avignon afin de préparer une rencontre entre les deux rois et de leur imposer sa méditation. À ses yeux, le vide laissé par l'affaiblissement du Saint-Empire romain germanique ne peut être comblé que par la reconnaissance mutuelle des États issus de cet empire, la France et les États allemands et italiens, afin de constituer une Europe pacifiée et unie, enracinée dans la foi chrétienne. Le retour d'Urbain V en Avignon était probablement aussi motivé par le désir d'assurer la sérénité et l'indépendance des cardinaux lors du conclave qui s'ouvrira à sa mort qu'il pressentait prochaine. L'Italie était en effet de nouveau le théâtre d'agitations dangereuses. De fait, Urbain V meurt après plusieurs semaines de grandes souffrances. Il était revenu depuis 2 mois en Avignon. Quant à la paix avec les Grecs, malheureusement, l'empereur mourut en route et elle n'eut pas de lendemain. La force du bienheureux Urbain V lui venait de son union à Dieu. Un chroniqueur, témoin très proche de ce pape, a écrit « En Dieu seul il épanchait son cœur, en Dieu seul il jetait ses pensées, il se consacrait totalement à son service. » Je pense que ce pape est un modèle, même si finalement tout ce qu'il a fait n'a pas eu le succès voulu. Néanmoins, en cette période si troublée, on ne peut que l'invoquer pour qu'il se fasse en sorte que nous sortions enfin de cette misère. Je vous souhaite un bon mois d'août. À bientôt. Passez de bonnes vacances.